Je déclare donc ouverte cette deuxième séquence où nous allons parler des formes de l'intérêt général. Je vais le faire non sans un peu de perplexité dont je m'étais ouvert auprès du président Champy, auprès du président Reynaud, auprès de tous les présidents disponibles pour savoir ce que ça voulait vraiment dire, les formes de l'intérêt général, parce qu'à dire vrai, je ne sais toujours pas. Alors Pierre Delvolvé a eu des illuminations vers 4 heures du matin. J'étais également debout à 4 heures du matin pour aller prendre mon avion, mais beaucoup moins illuminé que lui. Et la seule chose qui me soit restée de mes cogitations un peu antérieures, c'est que cette notion de forme renvoyait plus vraisemblablement à l'idée d'une formulation de l'intérêt général, donc à la question de savoir qui était compétent, habilité, voire habile à le définir. Et que la question centrale qui se profilait à cet horizon était celle de la légitimité des acteurs susceptibles de formuler l'intérêt général pour leur compte, et en particulier de leur légitimité affrontée, parce que précisément elles s'affrontent. Dans le fond, dans la théorie constitutionnelle, il y avait quand même un acteur qui était un peu plus légitime que tous les autres, c'était le législateur, pour dire ce qu'est l'intérêt général. Il était un peu secondé pour ce faire par le pouvoir exécutif, mais enfin, globalement, on se satisfaisait assez bien de cette chose-là. Sauf que des concurrents sont quand même très rapidement apparus. L'Union européenne d'un côté, le juge de l'autre. Et par ailleurs, de nouveaux concurrents sont intervenus avec une certaine vivacité. Les autorités administratives indépendantes, dans l'acception la plus générale du terme. Et aujourd'hui, très certainement, la société civile, par le truchement des associations ou pas, mais qui, en tout cas, se voit investie d'une prétention très forte à dire, elle aussi, l'intérêt général. Et, à dire vrai, dans ce petit monde des concurrents du législateur dans la définition de l'intérêt public, il s'est quand même visiblement passé des choses ces dernières années qui méritent qu'on s'y attarde un tout petit peu, des choses qui sont d'ailleurs un peu paradoxales. Du côté des concurrents habituels que sont l'Union européenne et le juge, nous ne pouvons pas ne pas constater qu'ils font l'objet d'une critique incroyablement radicale de la part de la classe politique et de la part de nos concitoyens dans une importante définition de ce terme, qui leur conteste justement la légitimité soit à dire l'intérêt général, soit à le mettre en balance d'autres intérêts généraux dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le contrôle de proportionnalité. Je ne connais pas de période plus critique, plus hypercritique que celle que nous vivons vis-à-vis de l'Union européenne et de l'état de droit représenté par les juges. Je pense ici à la définition des programmes politiques auxquels nous avons assisté depuis quelque temps, y compris dans des segments non extrémistes de la classe politique, où on a vu une critique de l'état de droit se développer avec une virulence tout à fait inattendue et probablement très inquiétante, et qui continue d'animer beaucoup les débats. L'Union européenne fait l'objet d'une contestation en légitimité qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est sans doute beaucoup accrue. Et donc, la prétention naturelle de ces acteurs à dire leur part d'intérêt général est aujourd'hui contestée, et contestée sur un mode qui profile vraisemblablement des résultats électoraux. Donc l'enjeu est très considérable dans cette contestation. Chez les nouveaux acteurs de la prétention à dire l'intérêt général, alors là, pour le coup, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que en lieu et place d'une critique systématique, on a une espèce d'enthousiasme général. Alors, celui dont les autorités de régulation ont fait l'objet depuis qu'on a compris qu'il était sans doute préférable que l'autorité politique ne dise pas tout et qu'il fallait créer les conditions d'une indépendance, et notamment d'une indépendance technique, pour pouvoir dire dans des domaines compliqués de la régulation nécessaire de la vie économique en particulier, où était l'intérêt général. Tout le monde s'est beaucoup pris d'enthousiasme. Et sans doute les autorités elles-mêmes, on y reviendra tout à l'heure, se sont elles-mêmes prises d'un certain enthousiasme pour cette part de leur fonction. Et puis la société civile, alors non seulement avait toujours eu la prétention à dire sa part de vérité, mais s'est trouvée ces temps-ci investie de prérogatives très, très extraordinaires. Je prends juste l'exemple de la loi sur le devoir de vigilance dont on parle beaucoup dans les contentieux climatiques. L'idée d'avoir donné à la société civile et aux associations un pouvoir d'aiguillonnage en réalité de contestation contentieuse, mais aussi de présence insistante, quotidienne, sur la manière dont les entreprises devaient être gérées et définir leur raison d'être, leur raison sociale, leur manière de se comporter, leur manière d'acheter, leur manière d'avoir des filiales à l'étranger, des fournisseurs, etc., c'est quand même constitutif d'un vrai bouleversement de la vie économique dont il n'est pas tout à fait certain que nous ayons mesuré et les avantages et sans doute les très gros inconvénients dans un pays qui se veut quand même encore un peu gouverné par la liberté d'entreprendre, clôture de la parenthèse. Toujours est-il que de cette question bizarre que sont les formes de l'intérêt général, il se déduit que nous sommes en face d'un très gros problème politique, juridique, intense, qui est celui de la contestation des légitimités affrontées pour dire un intérêt général très général ou un intérêt général peut-être plus partiel. Madame Stéphanie, tout à l'heure, je vais me taire parce que je suis là pour me taire, mais je trouve très intéressant la manière qu'elle a eue de présenter l'intérêt général comme celui des consommateurs. Je l'ai perçu, elle ne m'en voudra pas, comme un petit tirage de couverture, parce qu'à la vérité, l'arène à 40 euros, c'est sans doute très bien pour le consommateur, mais c'est très très mal pour le contribuable. Parce que bien évidemment, EDF étant obligé de travailler à perte et très très en deçà des nécessités d'investissement qui sont les siennes, il faudra bien payer un jour, probablement qu'un arène raisonnable est à 80 euros et pas à 40, et qu'une entreprise qui a plus de 60 milliards de dettes et des nécessités d'investissement colossales ne peut pas vivre comme ça avec une vision de l'intérêt général aussi liée à la consommation à court terme d'un consommateur en période de crise politique post-gilet jaune qui menace de mettre le feu aux fouquettes dès qu'on le contrarie un peu. Je me tais. Je vais donc céder la parole successivement à nos très remarquables interlocuteurs, en m'autorisant peut-être une petite permutation, si vous le voulez bien, pour assurer... Ah oui, quand on confie des fonctions, on s'expose à voir un abus de pouvoir se... Alors, c'est une toute petite permutation qui concerne la présidente Dumortier, dont je me dis qu'elle serait mieux avisée de parler en dernier, parce que ça assurerait un tuilage plus fin avec le thème de la deuxième... Donc la troisième table ronde de cet après-midi, puisqu'il sera question du rôle du juge. Et c'est sur cette métaphore charpentière du tuilage que je cède avec bonheur la parole au président Queuré, qui préside, comme vous savez, l'autorité de la concurrence et à qui je cède volontiers les 10 minutes d'usage.
Merci pour votre introduction. Monsieur le professeur, bonjour à tous. D'une certaine manière, le titre de cette table ronde, les différentes formes de l'intérêt général, avec toute son ambiguïté et peut-être son flou, reflète bien la nature de l'objet dont nous allons parler, qui est une gouvernance qui est, depuis de nombreuses années, je ne dirais pas effritée, je dirais plutôt diffractée ou fragmentée, entre différents niveaux de différents modes d'exercice et aussi différents niveaux de légitimité. Donc quand on regarde à travers un prisme qui diffracte, il y a le risque de voir tout un peu flou, ce qui est peut-être le cas de cette table ronde. On va essayer d'y mettre de l'ordre. Et je crois que la diversité des intervenants sur la table ronde est un facteur va nous aider aussi à représenter les différents points de vue dans cette discussion. Chacun d'entre nous, depuis son champ d'expertise, a pu appréhender ce qu'on appelait longtemps, ce qu'on appelle sans doute toujours, d'un terme peut-être un peu désuet maintenant, qui est l'État régulateur, hein, avec le désengagement de l'État d'un certain nombre de secteurs d'activité, la libéralisation d'un certain nombre d'activités qui étaient sous monopole légal. Ça a été dit plusieurs fois dans cette pièce, une exigence accrue d'effectivité, de transparence et d'impartialité venant de la société, et une exigence de protection des libertés publiques. Donc c'est une évolution qui est ancienne. Je me réfère à un grand auteur qui est Bruno Lasserre, qui avait fait une très belle intervention en 2019 à l'ENA sur l'État régulateur, je crois que tout est dit. sur cette transformation du rôle de l'État, dont il relève qu'elle a comporté une forme de délégation de compétences à de nouveaux acteurs, les autorités administratives indépendantes, hein, dont vous avez parlé, monsieur le professeur, et que je représente à cette table. Il est révélateur, me semble-t-il, que la première autorité administrative indépendante ait été la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en 1978, car la mission dévolue à la CNIL correspond bien à cette idée d'une attente sociétale de garantie des libertés. Donc ça ne commence pas dans le domaine économique, ça commence dans le domaine de la protection des libertés, qui devrait être confié non pas à l'exécutif, fût-ce sous la protection le contrôle du juge, mais à une entité hors du pouvoir hiérarchique de l'autorité politique. Et dans le champ économique, c'est aussi la garantie de l'exercice des libertés qui est dévolue aux autorités administratives indépendantes. Je reparlerai dans un instant des objectifs que poursuit l'autorité de la concurrence et du rôle de l'intérêt du consommateur, qui a déjà été abordé. Dès lors que l'intervention de l'État reflue, dès lors que des secteurs s'ouvrent à la concurrence, cette ouverture impose de veiller à une égalité entre acteurs, qui est pour moi le principe fondamental de l'action de l'autorité de la concurrence et des nouveaux textes dont on pourra débattre ailleurs sans doute s'ils relèvent ou non de la politique de concurrence, qui sont en train d'être mis en œuvre. Je pense particulièrement au règlement européen sur les marchés numériques, dont le souci fondateur est un souci d'équité et donc de protection de l'exercice d'une liberté économique. Et ces deux ordres de préoccupation, la défense des droits fondamentaux, la défense de la liberté économique, se retrouvent souvent imbriqués et peuvent justifier ensemble la création d'une autorité administrative indépendante. C'était le cas dans l'audiovisuel, avec la deuxième AAI, créée en 1984, la Haute Autorité de la Communication à l'époque, la communication audiovisuelle, maintenant l'ARCOM, qui régulait un secteur tout juste ouvert à des acteurs privés en veillant à l'indépendance du service public de la radiodiffusion. Et c'est également dans la même période, en 1985, que la commission de la concurrence, je me rapproche de l'autorité de la concurrence, reçoit cette qualification d'autorité administrative indépendante, juste avant sa mutation en conseil de la concurrence, dans l'ordonnance de 1986. Et l'autorité de la concurrence qui lui a succédé en 2009 s'inscrit dans ce mouvement de diversification de l'écosystème administratif et de la production normative, et d'une manière qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu, notamment au vu de votre introduction, monsieur le professeur, parce qu'elle illustre aussi une manière assez singulière d'articuler l'action publique entre le niveau national et le niveau européen. La politique de la concurrence est une politique de l'Union, naturellement, mais qui est mise en œuvre de manière décentralisée, puisque l'application des règles de concurrence s'inscrit dans le cadre d'un système institutionnel intégré qui associe les autorités nationales de concurrence dans chaque État et la Commission. Et il y a exactement 20 ans, ça fait l'objet de nombreuses célébrations à Bruxelles, le règlement numéro 1/2003 a fait le pari de remettre dans les mains des autorités de concurrence nationales, dont l'autorité de la concurrence, la compétence pour appliquer directement les stipulations du traité. Et le quatrième considérant du préambule du règlement 1/2003 parle d'un régime d'exception légale, un régime d'exception légale qui vient se substituer à la situation antérieure qui était une compétence exclusive de la Commission. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui les autorités nationales de concurrence produisent 90% de l'ensemble des décisions rendues sur le fondement des articles 101 et 102. Je ne parle pas du droit national de la concurrence, qu'on applique également, naturellement. Je parle des décisions sur les fondements des articles 101 et 102. 90% est produit par des autorités nationales. Parmi elles, d'ailleurs, l'autorité de la concurrence française est la deuxième depuis 2003, la deuxième autorité ayant rendu le plus de décisions sous les articles 101 et 102, après l'autorité italienne. Donc à l'heure où l'Europe est contestée, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, et particulièrement dans sa compétence de concurrence, il faut dire les choses comme elles sont, où on reproche à la Commission d'avoir trop de pouvoir en matière de concurrence, il est peut-être utile de rappeler ce chiffre, hein, 90% de l'application du traité en matière de concurrence se fait au niveau national, et particulièrement en France. Alors, ça signifie aussi que si l'autorité de la concurrence est indépendante, elle n'est pas isolée. Elle est ancrée dans un écosystème institutionnel, aussi bien au niveau européen, je l'ai dit, dans le réseau européen de concurrence, qu'au niveau national. Donc, pour reprendre une expression que mon ancien collègue dans mes activités précédentes, Mario Draghi, affectionnait particulièrement en parlant de la Banque Centrale Européenne, il disait que la Banque Centrale Européenne était indépendante, certes, mais indépendante dans l'interdépendance. Indépendante, mais interdépendante, avec, dans un tissu institutionnel et une répartition des compétences. On peut dire la même chose des autorités de concurrence. Au niveau national, ça signifie que l'indépendance a pour contrepartie la responsabilité et la transparence vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du Parlement. Je crois le lendemain de l'abandon du projet TF1 M6 l'an dernier, la commission de la culture et de la communication du Sénat m'a convoqué pour que je leur explique ce qui s'était passé. Et j'étais ravi de cette invitation, ça m'a permis d'expliquer au Parlement la teneur de la discussion avec les entreprises, les grands éléments de la discussion et la position de l'autorité de la concurrence. C'est une discussion normale qui a lieu avec le Parlement et aussi parfois sur des écrans à travers les médias. D'un point de vue plus institutionnel et au cœur même de nos fonctions d'enquête de concurrence, c'est la coopération avec la DGCCRF, donc avec le ministère de l'économie, qui permet à l'autorité d'exercer sa pratique dans la réalité des territoires, puisque l'autorité de la concurrence est rue de l'Échelle, un peu avenue de l'Opéra, et un peu place Valois, ça, c'est pas très loin. Et donc la réalité des territoires, nous l'appréhendons, et des territoires ultramarins, qui sont très importants dans notre pratique, et dans nos priorités, nous l'apprendons avec et à travers les équipes de la DGCCRF. 30% des dossiers en cours d'instruction nous sont parvenus par des indices collectés par la DGCCRF partout en France. Et nous avons, pour continuer dans l'interdépendance, je voudrais mentionner également notre interaction avec les autres autorités administratives indépendantes, particulièrement les régulateurs sectoriels. Il y a eu d'ailleurs hier une réunion d'un ensemble de régulateurs sectoriels économiques, l'ARCOM, l'ARCEP, la CRE, l'autorité de la concurrence, la CNIL. Nous nous voyons très souvent, le législateur a prévu des avis croisés sur les dossiers les plus importants. La coopération avec la CNIL, notamment, est un exemple intéressant. Elle a été particulièrement étroite dans la période récente. Elle est amenée, je pense, à se renforcer, compte tenu du rôle de la donnée, de l'accumulation de données, de l'usage des données, ou des restrictions à l'usage des données dans des comportements anticoncurrentiels de grands acteurs, mais compte tenu également du fait que la protection de la vie privée est un paramètre de concurrence, et donc la défense de la protection de la vie privée comme paramètre de concurrence concourt à la réalisation des objectifs de protection de la vie privée. Donc il y a des interactions croisées et fructueuses. J'en profite, si vous me le permettez, pour faire un peu de publicité, puisque le 12 décembre, nous organisons avec la CNIL et à la CNIL une conférence sur la protection des données et la concurrence, qui fera le point sur toutes ces questions. Alors, j'ai parlé de l'organisation de la politique de concurrence. Mais finalement, quel objectif visons-nous ? Nous sommes ici pour parler de l'intérêt général. Je suis prêt à dire que la diversification des lieux de production des décisions, que la multiplication des interactions et des mécanismes entre autorités et entre régulateurs correspond finalement à une vision élargie de l'objectif de politique publique poursuivi par chaque acteur, y compris les autorités de concurrence. Notre appréhension du périmètre de notre mission n'a jamais été restrictive. Mais à l'inverse, nous n'entendons pas excéder le mandat qui nous est donné. Et ça, c'est également quelque chose que j'ai appris à la Banque Centrale Européenne, qui est que une autorité indépendante doit exercer ses compétences, doit avoir une large discrétion pour exercer ses compétences. Ça a été redit par la Cour de justice dans l'arrêt Gauweiler, s'agissant de la BCE, mais qu'une certaine forme de modestie et aussi de bonne aloi. Et qu'il y a un risque d'hubris de l'autorité indépendante qui va chercher à utiliser ses pouvoirs pour tester les frontières de son périmètre. Alors on est toujours rattrapé par la patrouille, donc ce que j'ai appris à la BCE, c'est que les autres autorités, notamment les autorités politiques, ont toujours envie que vous fassiez leur travail à leur place, et ensuite vous critiqueront toujours pour l'avoir fait. Voilà, donc il faut anticiper cette discussion qui est assez inévitable, et rester à l'intérieur de ces frontières. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase d'un autre grand auteur, Jean-Marc Sauvé, qui disait « La concurrence est une composante de l'intérêt général, mais ne saurait devenir une fin en soi. » Je suis complètement d'accord avec cette phrase. L'autorité de la concurrence doit exercer son mandat dans les limites qu'elle lui a assignées, mais elle a aussi le devoir de le faire de manière pertinente au service de l'intérêt général, qui est souvent décrit comme étant le bien-être du consommateur, s'agissant de la concurrence. Mais il y a, il me semble-t-il, une très grande différence de compréhension de ce terme entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, comme vous le savez, sont traversés de débats sur le consumer welfare et le rôle du bien-être du consommateur. Je crois qu'en France, et sur l'expérience de mes discussions avec mes collègues européens, m'a confirmé dans l'idée que... On n'est pas passionné par ce débat, puisqu'on a depuis longtemps une conception de l'intérêt du consommateur qui est large, qui prend en compte la variété de l'offre, qui prend en compte l'innovation, qui prend en compte le bon fonctionnement concurrentiel du marché, tout ça étant mis sous l'intitulé de bien-être du consommateur, mais vous voyez que c'est une conception qui est très large. Et ça n'est certainement pas le prix le plus bas pour le consommateur. Ça n'a jamais été l'approche européenne et encore moins française de la politique de concurrence. Donc on a toute une pratique décisionnelle qui l'illustre. Je pense au secteur hospitalier, par exemple, hein, où on a notre évaluation de l'impact des projets de rapprochement entre cliniques à apprécier l'impact de ces opérations sur l'accès aux soins, sur la diversité, sur la qualité des services. On n'est pas du tout dans le prix du service de santé. Également dans le domaine des médias, où lors des grands rapprochements dans la presse quotidienne régionale, nous avons imposé comme remède le maintien de rédactions en chef distinctes, au titre non pas du pluralisme qui est la compétence de l'ARCOM, mais de la diversité qui est un paramètre de concurrence. Il n'y a pas de contradiction. Je vais revenir là-dessus, monsieur le professeur, parce que c'est important, en conclusion, sur le pluralisme et diversité. Je pense que c'est un zoom qui est intéressant pour bien voir les frontières des rôles des différents acteurs. Et dans d'autres cas, nous avons imposé des cessions de titres. Je pense à l'acquisition de Mondadori France par ReWorld en 2019, où nous avons imposé de céder soit l'autojournal, soit Automoto. Voilà. Là, on n'est clairement pas sur la même compétence que l'ARCOM. Voilà. C'est une autre dimension de la diversité des publications automobiles. Donc, il n'y a rien de très nouveau dans tout ça, et il faut être prêt à évoluer avec l'évolution des préférences collectives, politiques et sociétales. Alors ça pose une question que je ne vais pas trancher, qui est la manière dont ces préférences doivent s'exprimer. Qui doit nous le dire et dans quel est le cadre de dialogue qui nous permet de comprendre que ces priorités ont changé. Ça, c'est une question très importante. Mais dans certains cas, cette question est très simple, parce qu'il y a des textes. Donc je vais donner un seul exemple, qui est celui de la transition écologique, qui est une autre politique de l'Union, clairement une priorité de l'Union. Le traité est clair sur le fait que l'ensemble des politiques de l'Union doit intégrer cet objectif de soutenabilité et de transition écologique. Et on voit bien autour de nous que la demande sociétale est très différente aujourd'hui, beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, peut-être même 5 ans, sur ces questions. Et donc, collectivement, au sein du réseau européen de concurrence, nous avons aidé la Commission à produire de nouvelles lignes directrices sur l'application de l'article 101.3 du traité pour permettre aux entreprises de travailler ensemble pour poursuivre des objectifs environnementaux sans encourir les foudres des autorités européennes ou nationales. Donc, c'est nouveau. Ça montre que le cadre est suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution des priorités collectives. Mais à l'inverse, il y a eu un débat très intéressant au sein du réseau européen de concurrence pour savoir si ces coopérations entre entreprises qui visent des objectifs de transition environnementale doivent engendrer des bénéfices pour les consommateurs sur les mêmes marchés, ou est-ce qu'on peut considérer les bénéfices qui seraient engendrés pour les consommateurs sur d'autres marchés? Donc, c'est ce qu'on appelle des effets hors marché, sur des marchés distincts de ceux de la pratique en cause. Et en particulier en dehors de l'Union européenne, ce qui serait le cas extrême, hein, des entreprises européennes qui coopéreraient pour un projet qui aurait un impact sur les émissions de gaz à effet de serre en dehors du territoire de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'autorité européenne? Et moi, il me semble qu'il ne rentre pas dans le mandat, mais ça n'est pas un... Certains de mes collègues européens seraient en désaccord avec moi. Il me semble que l'autorité de la concurrence n'a pas mandat d'opérer la balance entre ces différents ordres de préoccupation et qu'on rentre là dans le domaine normatif et législatif. D'ailleurs, s'agissant des émissions en dehors de l'Union européenne, c'est fait à travers la taxe carbone aux frontières ou à travers nos accords commerciaux. Mais on sort de la politique de concurrence, car l'autorité de la concurrence n'a pas mandat d'opérer un équilibre entre des objectifs aussi distincts. Et je conclue en revenant sur la distinction entre diversité et pluralisme, puisque je vous ai vu réagir, monsieur le professeur. La distinction entre l'objectif de diversité et l'objectif de pluralisme a été décrite dans un avis du Conseil de la concurrence du 26 mai 2003 sur un projet de loi relatif aux communications électroniques. Donc le Conseil de la concurrence explique que les objectifs peuvent se rejoindre, mais sans pour autant créer de confusion entre compétition économique et compétition éditoriale, entre objectifs de concurrence et objectifs de pluralisme, entre régulation économique et régulation audiovisuelle. Je ferai référence également à deux décisions du Conseil d'État concernant le statuant sur la demande d'annulation de la décision de l'autorité de la concurrence et de la délibération du CSA, donc les deux processus parallèles sur l'acquisition du groupe AB par TF1, où le Conseil d'État dit que la décision de l'autorité de la concurrence, sous réserve d'engagement, doit être proportionnée à l'exigence de maintien d'une concurrence suffisante, alors que la décision du CSA, le régulateur sectoriel, doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et au marché de droit, que l'objectif fondamental de pluralisme et d'intérêt du public soit respecté. Et donc on a là deux objectifs différents avec deux instruments différents. Et comme je suis économiste, je me référerai à la règle bien connue des économistes, qui est la règle de Tim Bergen, qui dit qu'il n'est pas sage de chercher à poursuivre des objectifs différents avec un seul instrument. Et donc les objectifs de la politique de la concurrence, de la régulation sectorielle, sont différents et doivent être exercés par des autorités différentes. Et je m'arrête là.
Merci infiniment, monsieur le Président. Je ne tiquais pas particulièrement sur pluralisme et diversité. J'étais ravi de vous entendre parler de modestie, parce que l'autorité de la concurrence a quand même pour elle une virtualité de position dominante structurelle qui est liée au fait que sa compétence est attractive. Le droit de la concurrence, ça attrait tout, et la plupart des autorités de régulation, en particulier techniques, n'ont pas cette capacité de faire venir à elles des interrogations, ce qui place naturellement l'autorité et quelques autres, mais surtout l'autorité, en situation pour le coup de concurrence active avec les régulateurs sectoriels qui ont quelquefois des choses à dire sur le même sujet. Et la question de l'aménagement, pour le coup pas du tuilage, mais du respect des compétences respectives des unes et des autres, est certainement une question centrale. Et j'entends avec bonheur la profession de foi, de modestie, de self-restraint que vous nous avez exprimée. Je vais céder la parole à Madame Christine Roger, qui dirige la justice et les affaires intérieures du Conseil européen, pour les 10 minutes autoritaires qui lui sont allouées par les vrais présidents.
Je vais essayer de les respecter. Merci beaucoup de m'avoir associé à ces réflexions auxquelles je participe en mon nom propre et non pas en représentant le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne. Je commence par ce caveat important parfois. L'intérêt général tel que défini par les traités européens, les occurrences sont peu nombreuses. Le premier article où l'on en parle, c'est l'article 17, qui précise que la Commission européenne promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Donc c'est à peu près tout, sauf peut-être pour la Cour des comptes, où l'on dit que la Cour des comptes travaille dans l'intérêt général de l'Union et certains organes consultatifs également. Mais ça s'arrête là, et ensuite l'on retrouve dans les parties consacrées à la politique étrangère et de sécurité commune la notion d'intérêt général pour qualifier les actions que l'on voudrait faire ensemble. Autrement dit, la présomption, c'est que l'on n'a pas beaucoup de choses à faire ensemble, sauf que, dans certains cas, l'intérêt général le demande. Donc ça se présente plutôt comme une exception d'agir ensemble, et là, ça doit se faire en raison de l'existence d'un intérêt reconnu. En plus des traités, nous avons la charte des droits fondamentaux, avec un article 52, qui nous explique que les limitations à l'exercice des droits et libertés reconnus par la charte ne peut se faire que lorsqu'il y a un enjeu d'intérêt général. Donc là aussi, c'est négatif. On ne définit pas de manière positive l'intérêt général dans le droit primaire, sauf comme l'une des missions de la Commission européenne, et cette mission étant reconnue d'ailleurs depuis l'origine, depuis le traité de Rome. Alors, que fait de cette notion la Cour de justice de l'Union européenne? Elle ne s'est pas prononcée de manière générale sur l'intérêt général de l'Union, l'interprétation de l'article 17, ni même l'interprétation de la manière dont la Commission européenne exerce cette mission d'intérêt général. On aurait pu penser, par exemple, que dans certains cas de carence de la Commission ne prend pas l'initiative, donc agit-elle en ne faisant pas dans le sens de l'intérêt général de l'Union. Mais ce n'est pas un fondement suffisant. Il faudrait que la Commission n'agisse pas alors qu'un acte législatif lui demanderait d'agir. Donc il n'y a pas, de la part de la Cour, une interprétation de la manière dont la Commission européenne exerce cette mission d'intérêt général. En revanche, la jurisprudence de la Cour a cependant mis des limites à qualifier ce qui pourrait relever de l'intérêt général. Et je citerai le célèbre arrêt Cassis de Dijon de 1979, où il a été expliqué que les prescriptions sur la teneur alcoolique minimum des boissons et spiritueuses ne poursuivaient pas un but d'intérêt général, et que là, il y avait un enjeu de santé publique qui faisait que ça ne pouvait pas primer sur la libre circulation des marchandises. Mais je dirais que, de manière assez convergente, la Cour ne définit pas ce qu'est l'intérêt général européen, à l'occasion, cependant, peut-être, de l'interprétation des dispositions de la Charte. Depuis 2003, la Charte des droits fondamentaux, l'entrée en vigueur du traité de Nice, donc la Cour a pu s'exprimer sur la conformité du droit primaire par rapport à la Charte des droits fondamentaux. Et elle a pu le faire même pour contester des dispositions législatives. Donc elle a dit au législateur, vous avez pris une décision, vous avez défini un règlement ou une directive, mais ça n'est pas conforme à la Charte des droits fondamentaux. Donc la Cour, de ce point de vue-là, a fait primer ce que le législateur européen avait voulu faire au nom des principes de nécessité et de proportionnalité, même si la mesure a une finalité d'intérêt général. Donc, pour nous résumer sur les traités, peu d'occurrence, et c'est essentiellement en qualifiant la mission de la Commission européenne, et en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de justice, il y a une définition des contours de l'intérêt général, mais, comme cela a été dit dans la session précédente, l'intérêt général, c'est une notion évolutive. Donc il n'y a pas la fixation d'un intérêt général qui serait, disons, éternel. Alors, pour respecter les 10 minutes, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par M. le Président Queuré sur la manière dont se forme l'intérêt général au niveau de l'Union européenne. Comment est-ce que l'on arrive un résultat qui pourrait être qualifié de mesure prise, adoptée dans l'intérêt général européen. Et là, je pense qu'il n'est pas sans intérêt de regarder la gouvernance européenne, puisque la Commission européenne est l'instance qui doit travailler dans l'intérêt général de l'Union. Et, comme vous le savez, à de très rares exceptions près, la Commission européenne a le monopole de l'initiative législative. C'est donc une responsabilité considérable qui est dévolue à la Commission européenne. Les commissaires, d'ailleurs, les commissaires européens, ne sollicitent, n'acceptent d'instructions, je lis le traité, d'aucun État membre et ne représentent pas leur État d'origine au sein du collège des commissaires. Donc on se trouve devant une structure qui est dégagée normalement des intérêts nationaux et dont le métier est de promouvoir l'intérêt général européen. Alors en pratique, la Commission européenne elle-même, comme instance qui énonce l'intérêt général dans les propositions législatives, la Commission européenne a connu quelques évolutions dans sa structure et sa composition. Nous ne sommes plus à l'époque du traité de Rome où les États les plus peuplés démographiquement avaient deux commissaires autour de la table de la Commission européenne. Maintenant, nous avons chaque État membre propose un commissaire pour siéger autour de la table de la Commission européenne. Donc la notion d'équilibre implicite démographique qui avait sous-tendu la décision originelle de donner deux commissaires à la France, à l'Italie et à l'Allemagne, cette notion d'équilibre implicite démographique n'existe plus à l'intérieur de la Commission européenne. De la même manière, nous avons aujourd'hui 27 commissaires, c'est un collège très large. Et je parle bien de collège parce que le traité nous dit que la Commission fonctionne comme un collège. C'est comme lorsqu'on fait un dîner, c'est plus facile de discuter à 8 ou à 10. Lorsqu'on a 27 convives, les discussions collégiales sont plus difficiles. Et donc on arrive à un système où pour que l'institution fonctionne, il y a un appel, je dirais, assez naturel à une forme de présidentialisation que l'on a vu dans les commissions précédentes et qui est, je crois, assez revendiqué aujourd'hui. Il y a également la manière dont la Commission européenne est mise en place. Et vous savez que maintenant, le président, la présidente de la Commission européenne est désignée en tenant compte du résultat des élections au Parlement européen, ce qui amène des discussions avec le Parlement et un système que le Parlement a importé des États-Unis, qui est les auditions des commissaires qui doivent prendre certains engagements et qui peut aboutir dans certains cas à ne pas retenir le commissaire qui est proposé par tel ou tel État membre. Donc, nous avons une structure de gouvernance où on s'éloigne en réalité du modèle d'origine. Ce n'est pas une observation critique, c'est un constat. La haute autorité CECA, mise en place en 1952, avait des pouvoirs considérables dans une zone assez restreinte, la régulation de la production et des marchés du charbon et de l'acier, mais avec des pouvoirs énormes. Et des figures siégeant à cette haute autorité qui étaient essentiellement des figures de hauts fonctionnaires. Et maintenant, la composition de la Commission européenne est beaucoup plus, ce sont des figures politiques pour l'essentiel qui sont autour de la table et qui, par leur culture personnelle, leur parcours personnel, doivent apporter aussi un sentiment de ce qui est recevable dans les différents États membres, si la collégialité, encore une fois, fonctionne correctement. Donc, une situation qui est un petit peu différente de ce qui se passait auparavant, et surtout avec une institution européenne qui revendique son caractère politique. C'était l'affichage que la commission précédente, présidée par M. Juncker, souhaitait. Commission politique, et la présidente actuelle est allée un pas plus loin en parlant de commission géopolitique. Donc il y a une affirmation très claire de l'enjeu pour ce collège des commissaires d'être une structure qui présente une forme assez proche de ce qu'on pourrait imaginer dans un pays fédéral, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une forme de gouvernement européen. Maintenant, d'autres instances définissent l'intérêt général, et ce sont bien sûr les co-législateurs, le Conseil des ministres et le Parlement européen, qui, dans des discussions sur les textes législatifs, composent, discutent, arrivent à formuler un état, je dirais une photographie de ce qui semble être l'intérêt général au moment où cette décision, cette régulation est arrêtée par les deux législateurs, par les co-législateurs. Leur métier n'est pas nécessairement de définir l'intérêt général. Je crois qu'ils essayent de trouver des accords avec, en optimisant sous contrainte, mais en optimisant aussi des intérêts qui sont des intérêts nationaux. Et donc le sujet européen, c'est de moyenner, de composer les intérêts nationaux et d'essayer de dire que cette résultante de la confrontation et la discussion entre intérêts nationaux de ce cheminement devra sortir la formulation de l'intérêt général. Maintenant, c'est une question qui peut être pour moi, en tout cas, la plus importante lorsqu'on parle d'intérêt général européen, ce sont les arbitrages court terme, long terme. Et ça, c'était, je dirais, tout l'intérêt, encore une fois, de la construction initiale à laquelle il faut parfois repenser, c'est de dire les intérêts de court terme sont en général servis par les intérêts nationaux, parce que chaque gouvernement, chaque parlement national, chaque structure nationale opère dans un contexte particulier et définit l'intérêt général du moment. L'idée européenne était de passer au-delà de ce court terme et d'essayer de voir à plus long terme comment il fallait penser en regardant l'avenir, de manière peut-être un petit peu plus indépendante des pressions normales et des intérêts normalement exprimés. Mais cette idée de long terme, je pense, est relativement importante et doit inspirer, me semble-t-il, le développement futur du travail des instances européennes et de la gouvernance européenne. Et c'est assez difficile à faire, on peut le dire. C'est un enjeu colossal. Il y a quelques décisions récentes qui peuvent interroger. Celle, par exemple, que tout le monde aura suivi sur le glyphosate, par exemple, l'autorisation de cette substance, qui a été finalement décidée par la Commission européenne, pour 10 ans, d'ailleurs, au lieu des 5 ans précédents, mais par défaut, parce que le système d'approbation de ce qui... au fond, relèverait en France du décret, ce système d'approbation par les États membres n'a pas fonctionné. Les États membres ne se sont prononcés ni pour ni contre. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est la Commission européenne qui agit et qui définit l'intérêt général, en espérant, dans le cas précis, qu'elle aura pris l'intérêt général de long terme en considération.
Merci infiniment, Madame la Directrice. Je me souviens d'un lointain passé où j'ai été l'élève de Guy Hérault. Guy Hérault, que alors les moins jeunes d'entre vous se souviendront peut-être qu'il a été candidat à l'élection présidentielle et qu'il avait fait le score très remarquable de 0,07% des voix, ce qui lui avait valu le surnom de James Bond. Était très injustement décrié, c'était en réalité un des plus grands théoriciens européens du fédéralisme, et en particulier du fédéralisme intégral. Il avait écrit 2 ou 3 livres sur la question, dont un qui s'appelait « Les principes du fédéralisme et la fédération européenne ». Hérault défendait à l'époque l'idée que la singularité du modèle de l'Union européenne, qui n'avait pas encore ce nom-là, était d'avoir une institution fondamentalement fédérale, qui était la Commission, et une institution fondamentalement coopérative, c'est-à-dire non fédérale, qui était le Conseil, et qu'il fallait se débrouiller avec ça, que ça créait une forme hybride, mais qu'il fallait assumer cette dichotomie, cet antagonisme. Et vous écoutant, je me disais que quand même, dans la prétention de la Commission à être un gouvernement européen, quelque chose qui la rendrait fédérale avant que la décision politique n'ait complètement assumé ce choix-là, n'est pas allé dans le sens de la modestie dont nous parlions tout à l'heure, parce que un certain nombre de signes discrets peuvent donner à penser que de temps à autre, la Commission, se sentant autorisée d'elle-même, va un peu plus loin que ce que peut-être les traités avaient souhaité qu'elle fût. Mais je galège et je vais restituer la parole un maître de la burgade en lui présentant des excuses plates pour l'avoir lui-même interverti sans lui demander sa permission dans un mouvement qui devait tout à la galanterie française. Enfin, j'espère.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, qui dit différentes formes de l'intérêt général appellent une typologie. Pour ce qui me concerne, je me suis essayé à une typologie de l'intérêt général en matière de protection de l'environnement. L'exercice est audacieux, c'est un essai chronométré qui ne prétend pas à l'exhaustivité, d'autant moins que l'intérêt général, on l'a compris, se prête difficilement à une typologie. Notre code de l'environnement débute à l'article L110-1 par l'énoncé de principes, de grands principes, qui se révèlent être le fruit d'une maturation législative sur une vingtaine d'années. Ce cycle, qui aboutit à consacrer un patrimoine commun de la nation, marque la refondation de l'intérêt général en matière environnementale. Cette refondation témoigne d'une gouvernance renouvelée de la protection de l'environnement, avec l'essor d'acteurs privés qui jouent désormais un rôle significatif, s'il n'est pas essentiel, aux côtés des acteurs publics. Un examen rétrospectif de la législation laisse apparaître une évolution assez nette en matière de protection de l'environnement. À l'intérêt général que je qualifierais de moderne, qui était le gage de l'expressivité des politiques publiques en matière environnementale, a succédé un intérêt général que je qualifierais de contemporain, conçu comme un exhausteur de sens. L'intérêt général moderne, c'est celui que le législateur affirme péremptoirement et pour la première fois en 1976. La loi qualifie d'intérêt général la protection de la nature et ce, à travers ses quatre piliers que sont la protection des espaces, la préservation des espèces, le maintien des équilibres et la protection des ressources. La qualification d'activité d'intérêt général permet de passer du fait au droit. Ce passage est autant sociologique que juridique. La protection de la nature est alors, effectivement, en 1976, une préoccupation sociale forte qu'il convenait d'affermir juridiquement. Il s'agit de renforcer le consensus autour de l'action de l'État en matière environnementale, avec un référencement explicite à l'intérêt général dans son acception historiquement hexagonale, celle, on l'a dit, d'un intérêt propre de la collectivité au-dessus des intérêts particuliers. L'opération de qualification a été perçue comme étant à la base du droit de l'environnement moderne et elle s'est poursuivie en intéressant tant les milieux et territoires que les éléments et ressources. Reste qu'en 1992, le point de bascule pour moi, pour la protection et la mise en valeur de l'eau, on l'a évoqué, le législateur ne se satisfait plus de la seule qualification d'activité d'intérêt général. Il commence par revaloriser l'eau comme un élément du patrimoine commun de la nation. Il réitère en 1995, pour les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent. C'est ici l'avènement de l'intérêt général contemporain. La démarche est ambitieuse. Le concept de patrimoine commun de la nation n'est certes pas nouveau pour le législateur qui l'avait déjà utilisé dans la loi Defferre de 1983. Il s'agissait de dire que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Le symbole, même s'il est un peu flou, permet quand même d'incarner une sorte de complexité métajuridique, mais inhérente à la matière environnementale, à mon sens, l'idée qu'il existe une communauté de biens ou un bien commun qui dépasse les oppositions bien privé et bien public, propriété privée, propriété publique. La valorisation de ce bien commun débouche sur une nouvelle modélisation de l'intérêt général. Certains y voient un mouvement de novation, Agathe Van Lang, ou une transfiguration par le droit de l'environnement, Émile Gaillard. Car le glissement est à la fois sémantique et conceptuel. À mon sens, l'intérêt général opère une synthèse, une refondation, où il est à la fois intérêt propre, au-dessus des intérêts particuliers et intersection des intérêts privés et particuliers, ou bien commun finalement, suivant l'acception utilitariste anglo-saxonne de l'intérêt général. Avec le patrimoine commun de la nation se dessinent les contours du développement durable, par-delà la protection de l'environnement. Il y a un héritage à transmettre, notamment à l'ombre portée du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le concept se tourne ainsi vers l'avenir en suggérant un devoir de transmission sous couvert du droit des générations futures. L'avènement de l'intérêt général contemporain, ou néo-moderne, pour reprendre le qualificatif employé par Guylain Clamour, est aujourd'hui le marqueur d'une gouvernance renouvelée de la protection de l'environnement. Bien évidemment, l'intérêt général nécessite à la base une intervention, j'ai écrit de l'État, je devrais dire des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour définir un projet collectif et pour orienter une ou plusieurs politiques publiques environnementales. Mais en matière de protection de l'environnement, des mécanismes de participation et de régulation prennent peu à peu de l'ampleur en donnant une place à d'autres acteurs, cette fois privés, qui ont désormais l'intérêt général en partage. Le mouvement participatif, né dès 1976 avec les associations agréées, l'agrément constitue un label officiel délivré par les pouvoirs publics qui traduit l'engagement effectif et durable de la structure associative dans le domaine de la protection de l'environnement. Cet agrément, qui est attribué sous conditions pour une durée limitée, dans un cadre déterminé, n'est pas un simple faire-valoir. Il offre aux associations la possibilité d'être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement dans les instances consultatives. Il donne aux associations accès à la justice civile en tant que partie civile pour toute infraction à la législation environnementale. Il leur donne aussi accès à la justice administrative à la faveur d'une présomption d'intérêt pour agir, sous réserve de leur statut contre les décisions administratives ayant des effets sur l'environnement dans le territoire pour lesquels elles sont agréées. Le mouvement participatif connaît son apogée avec la Charte de l'environnement et son article 7, qui ne distingue pas les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, à même de participer. Aussi bien à l'instar de l'État, tout un chacun, c'est-à-dire n'importe qui, est désormais en mesure de contribuer à l'intérêt général en matière environnementale et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l'article 1er de notre charte de l'environnement. Parallèlement aux mécanismes de participation, et j'en terminerai par là, ont été mis en place des instruments de régulation de l'activité économique des entreprises, lesquels sont désormais susceptibles de concourir à l'intérêt général et à la protection de l'environnement. Autrement dit, la poursuite d'intérêts privés financiers va pouvoir participer à la satisfaction de l'intérêt général et en particulier la réalisation de l'objectif de développement durable. Parmi ces outils figure en bonne place le concept de responsabilité élargie du producteur, le REP. REP en matière de déchets, pour les initiés. Le concept est ancien, prévu depuis 1975, mais récemment remis en lumière avec le contentieux dont il peut faire l'objet. Il s'inspire du principe du pollueur-payeur qui innerve tout notre droit de l'environnement. Mis en œuvre dans une vingtaine de filières, il consiste à transférer sur les acteurs mettant sur le marché des produits générant des déchets la responsabilité de toute ou partie de la gestion de ces déchets. Le producteur concerné a le plus souvent l'alternative suivante, ou bien il met en place un système propre pour pourvoir au traitement des déchets issus des produits qu'il a lui-même mis sur le marché, ou bien il adhère et finance des éco-organismes agréés par l'État qui vont être chargés d'assurer la gestion de ces déchets à sa place. Un autre outil de régulation concerne l'exploitation des ressources naturelles, avec la création en 2004 de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et celle inhérente d'un marché destiné à en organiser l'échange. Dès lors que les quotas sont des biens meubles et transmissibles, une valeur économique est attribuée à des droits autorisant un usage particulier de l'air par les industriels, impliquant donc une émission de gaz à effet de serre. Alors que, on le sait, l'air, élément de l'environnement, fait traditionnellement partie en droit des biens des choses communes qui sont régies par l'article 714 du Code civil. Se dégage donc ici un système de concurrence des droits d'usage sur les ressources naturelles, ce qui constitue quelque part une petite révolution idéologique avec le choix d'un modèle libéral et un interventionnisme de l'État beaucoup, beaucoup moins évident. Le clivage intérêt public, intérêt privé est dépassé pour tenter de parvenir à une utilisation optimale des ressources naturelles. En définitive, l'intérêt général en matière de protection de l'environnement se révèle, à mon sens, sans tabou ni totem. Il peut être tout à la fois à vocation collective, pour reprendre les mots d'Olivier Gohin, et libéral, pour reprendre l'analyse d'Elisabeth Zoller. À mon sens, sa plasticité n'a sans doute pas fini de nous surprendre.
Merci beaucoup, cher maître. Peut-être qu'au moment des questions, on pourra revenir sur cette question de la légitimité, j'avais envie de dire, de la prétention de la société civile à pouvoir exprimer un intérêt général efficient, parce que ça ne va quand même pas totalement sans difficulté de nature politique, mais aussi de nature juridique. Mais peut-être qu'on peut se garder ça pour les questions. Je cède la parole à celle dont c'est la maison ici et à qui je ne devrais pas avoir à le faire.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'ai compris que le fil directeur de nos interventions respectives devait être la modestie. Donc, en toute modestie, je me suis demandé d'où venait le juge administratif, qui il était et où il allait. Ce que je vais essayer de condenser en quelques mots, car au-delà de la boutade, je crois qu'effectivement, quand on est face à des notions très, très mouvantes, très plastiques, comme on nous l'a dit, avec des proches d'autres notions parentes mais différentes, le plus sage pour s'y retrouver dans ce brouillard est de chercher une boussole, et cette boussole, on la trouve souvent dans la façon dont les choses ont été pensées au début, comme vous le disiez, madame. Donc, je vous propose de redérouler d'abord un peu la pelote pour ensuite voir, en la remontant, ce qu'il en reste, ce qu'on peut trier, ce qu'on doit garder. Donc, je repars vraiment d'évidence, hein, pardon. Je progresse pas à pas avec ces évidences. D'abord, sur cette notion d'intérêt général, dont au moins on est sûr que dedans il y a l'idée d'intérêt et l'idée de général. Alors, l'idée d'intérêt, c'est l'idée que chacun doit s'y retrouver, que chacun de ceux qui adhère à ce que j'appelle dès à présent le contrat social, doit y gagner quelque chose, et ce quelque chose va aller au-delà de son seul intérêt particulier, car celui-là, il est capable de le défendre tout seul. En tout cas, il n'aurait pas besoin d'une instance tierce pour le faire, et l'intérêt général, il y gagne s'il accepte d'adhérer à ce contrat, s'il pense que, au moins sur du long terme, pour m'inscrire dans ce que disait ma voisine, ce sera quand même plus avantageux pour lui s'il sacrifie, le cas échéant, en tout cas s'il laisse une instance tierce, avoir une vue un peu plus surplombante des choses pour maximiser, j'essaye de prendre quelques termes économiques, l'intérêt de l'ensemble. Alors, instance tierce, on arrive à cela. Cette instance tierce, on va dire à ce stade que c'est l'État. Il peut y en avoir d'autres, on le voit bien. On disait tout à l'heure, tout le monde a la prétention de contribuer à définir ce qu'est l'intérêt général. Mais ce qu'il lui faut assurément, c'est une légitimité démocratique pour qu'on puisse lui confier cette mission-là. Donc, l'État a cette vertu-là qu'il est organisé pour. Donc, on peut imaginer d'autres instances, mais il va falloir à tout prix leur trouver cette légitimité démocratique. Donc cette instance un peu surplombante est là pour identifier identifier l'intérêt général, puisque l'intérêt général n'est pas une notion immanente. C'est une notion qui se détermine par la raison. Et c'est une notion évolutive. Et donc, il faut à tout moment avoir une instance qui n'est pas capable d'énoncer, d'exprimer ce qu'est l'intérêt général. Et personne ne peut le faire une fois pour toutes et à l'avance. D'où la nécessité de cette instance. Au sein de cette instance, la répartition des rôles, normalement, est que le législateur l'exprime, à défaut peut-être de la définir véritablement. En tout cas, il est celui qui trie et qui exprime comment, lui, il entend à ce moment-là que la teneur de ce qu'est l'intérêt général. Il hiérarchise dans une pesée les différents intérêts. Et donc, il l'exprime, mais de façon générale, et je vais revenir sur ce point-là, par la norme. L'administration, elle se contente d'agir. On ne peut lui confier cette action que si on a la certitude qu'elle le fait dans l'intérêt général. Mais ce n'est pas elle directement qui énonce, qui exprime ce qu'est l'intérêt général. Alors, je disais, elle énonce de façon générale, parce que la garantie qu'on a normalement, au-delà de la prémisse qui est... La légitimité démocratique de celui qui énonce l'intérêt général, c'est le fait que lui-même se comporte de façon fidèle à ce qu'est l'intérêt général. Et une bonne façon de le faire, c'est de passer par la règle de droit. Passer par la règle de droit, c'est souvent impersonnel, c'est la façon la plus sûre que ce qui est identifié comme l'intérêt général ne soit pas représentatif d'intérêts particuliers ou que la pesée soit clairement vue, et selon des procédures. Et finalement, l'intérêt général se manifeste de façon très largement, moins par sa teneur à un moment précis, que par toutes les procédures qu'on met en place pour s'assurer que c'est bien toujours l'intérêt général dont il est question et pas une déviation, puisque souvent c'est ça le débat, le sujet. Est-ce qu'il est toujours bien question de l'intérêt général ? Car quand on estime que le législateur ou l'administration ne sont plus dépositaires de l'intérêt général, c'est souvent parce qu'on considère soit qu'ils n'ont plus la légitimité démocratique, soit que les procédures qui conduisent à énoncer les règles ne permettent pas de s'assurer que c'est bien cela qui figure dans la loi et qui est correctement énoncé dans la loi et dans les actes réglementaires. Je continue à dérouler ma pelote et j'arrive donc au rôle du juge administratif, qui est un rôle qui arrive vraiment assez loin dans ce processus. Pas du tout en amont, pas du tout au stade où il convient d'exprimer, d'identifier l'intérêt général, mais juste au stade aval où il faut s'assurer que ce qui a été fait l'a bien été dans le cadre du respect de l'intérêt général. Et donc, l'existence même d'un juge administratif distinct du droit commun atteste de l'importance, de la valeur qu'on accorde à cette pesée, à cet examen du fait que l'action administrative, dans le cadre fixé par la loi, s'est bien effectuée, a bien été menée dans le respect de l'intérêt général. Il faut donc, a posteriori de cette action, avoir un juge qui puisse expliciter où s'est trouvé l'intérêt général, non pas parce qu'il l'a défini lui-même, mais parce qu'il le déduit de tout le cadre qui a été fixé précédemment. Et il faut ensuite qu'il contrôle, une fois qu'il a bien explicité où se trouvait l'intérêt général, contrôle que l'action administrative s'est inscrite dans le cadre de ses finalités. Et c'est la seule raison d'être du juge administratif. C'est pour ça qu'il faut un juge administratif et c'est à cela qu'il sert. Donc vraiment, j'arrive à ma pelote, au bout de ma pelote, pour identifier ce cœur-là de l'identité du juge administratif. Alors, il le fait, je trouve très intéressante la présentation qu'avait fait le professeur Truchet dans l'étude de 1999 sur le triple rôle de l'intérêt général dans le travail du juge administratif. Je ne vais pas m'y appesantir longtemps, mais juste mentionner une première chose. Le travail de raison dont je parlais, qui déclare où est l'intérêt général, avec une recherche permanente de l'équilibre qui donne son unité au concept, qui lui-même est en évolution permanente, mais l'unité, c'est de déclarer là, il y a l'intérêt général. C'était ça. C'était ça, l'objectif poursuivi par le législateur, par l'action administrative, c'était ça. Donc, l'énonciation de la norme. Et puis, il y a la norme de mesure des pouvoirs des autorités administratives, donc, qui permet le contrepoids dans les appréciations apportées, les compléments à ce qui n'est pas explicitement énoncé dans les normes, donc tout ce qui ajoute à la loi et aux normes qui ne l'ont pas dit explicitement, et en sens inverse, tout le travail de contrôle avec l'appréciation globale des finalités, de la légalité et en partie d'une dose d'opportunité pour rebondir sur un débat qui a été énoncé tout à l'heure. Donc voilà sur le rappel de ces quelques évidences. Je remonte ma pelote à l'envers pour regarder du coup comment on peut se mouvoir au milieu de ce contexte brumeux d'évolution, de mélange des légitimités, de contestation des légitimités. Il me semble que le premier repère, c'est d'abord de bien être travaillé sur la conscience que le juge administratif a en interne et en externe sur sa raison d'être, sa différence avec le juge judiciaire. Bien sûr, le juge administratif doit être un juge pleinement juge, qui satisfait à toutes les exigences qu'on peut attendre d'un juge. Mais il n'est pas, pardon, ceux qui, notamment à la première chambre, ont l'habitude de m'entendre, savent que je passe mon temps à dire le juge administratif n'est pas un juge en moins, c'est un juge en plus. Ça n'est pas un juge qui doit à tout moment justifier qu'il fait aussi bien que le juge judiciaire ou que d'autres juges en termes d'impartialité, d'indépendance, expliquer comment il s'y prend, plutôt qu'il doit à tout moment pouvoir expliquer qu'il est dépositaire d'une mission particulière et qu'il n'existe qu'à cause de cette mission particulière. Donc, à l'intérieur même, entre collègues, magistrats administratifs, avoir l'obsession de ce rôle vraiment central du juge administratif. Il y a un article d'un magistrat administratif qui est paru à la JDA assez récemment, l'année dernière, en 2022, qui s'appelait « Réhabiliter l'art de juger dans le procès administratif », monsieur D'Argenson, et qui expliquait exactement ça. L'art de juger dans le procès administratif, c'est toujours avoir en tête ce guide de l'intérêt général. Contestation de l'extérieur, parce que j'entends souvent dans les instances, notamment universitaires, des débats sur le juge administratif fait-il une place suffisante aux libertés, droits individuels ? Quelle place pour la subjectivisation dans le contentieux administratif ? Tout ça est évidemment intéressant, mais il convient toujours de le replacer dans une pesée au sein de celle de la protection de l'intérêt général ou de la mise en balance avec l'intérêt général. Ça avait été dit en introduction par le vice-président. Soit c'est dans la pesée, parce que dans l'intérêt général, il est la protection des droits et libertés individuelles, soit parce que, je reviens au début de ma pelote de contrat social, parce que de temps en temps, il est nécessaire pour parvenir à cet intérêt général de sacrifier, si j'ose le terme, certains intérêts individuels à tel ou à tel moment, ou en tout cas leur donner un poids plus faible dans cette pesée. Donc toujours dans les discussions, dans la façon dont le juge administratif sait expliquer sa mission à l'extérieur, rappeler cet élément-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je remonte un peu plus haut encore dans ma pelote, c'est sur la façon dont le juge se situe par rapport au législateur et par rapport à l'administration. On a eu une intervention tout à l'heure très intéressante dans la salle qui mettait en avant le fait que les choses avaient bien changé depuis les années 1970. Et assurément, beaucoup de choses ont changé dans l'office du juge administratif depuis qu'il peut prononcer des injonctions, depuis qu'il est saisi de décisions de refus et depuis qu'il est saisi d'inactions administratives. Le vice-président mentionnait en introduction, et évidemment je ne peux pas les passer sous silence, les décisions d'Assemblée du 11 octobre dernier qui ont mis les pieds dans le plat, si je puis dire, et redit clairement quel est le rôle du juge administratif dans ces contentieux. Il y a une pesée pour lui à faire, il est évident qu'il doit avoir un rôle parfaitement effectif et que donc ses pouvoirs d'injonction sont très utiles pour cela, mais ils ont des limites, et ces limites-là, ce sont celles où il commence à devenir, risquer de devenir administrateur, voire législateur. Et la question se présente d'autant plus quand on est saisi, par ailleurs, de QPC, même si nous n'en sommes pas juge final, de QPC sur l'inaction du législateur, où la question se pose également de cette façon-là. Jusqu'à quel point le juge peut-il, doit-il accepter de le faire ? Eh bien, jusqu'au point, il y a une chronique passionnante du centre de documentation dans la JDA de la semaine dernière, le juge ne peut pas tout, il doit refuser. Il doit refuser, parce qu'il en va de l'équilibre démocratique, d'exercer ces pouvoirs-là quand il bascule du côté où il serait dans l'action administrative et dans celle du législateur. Et ça, c'est le deuxième grand repère que je tire de ma petite pelote. Et après, je reviens encore un peu plus haut dans ma pelote que j'aurais fini à ce stade de remonter. Et je viendrai juste à l'idée de... Oui, mais attention, tout ça ne fonctionne, je l'ai dit au début, que pour autant qu'on ait une légitimité démocratique et qu'on fasse confiance à l'État. Je suis retombée sur les actes d'un colloque il y a plus de 10 ans qui s'appelait « Où va l'État ?». Et je crois que la question se pose toujours, qu'elle est toujours ouverte, qu'elle est extrêmement complexe. Et celle-là, elle n'est assurément pas du ressort du juge administratif, elle est plus large, elle a sa légitimité. Mais le juge administratif, me semble-t-il, n'a pas de difficulté avec les réponses qui peuvent y être apportées. Il n'a pas de difficulté à partir du moment où lui-même s'en est tenu fermement mais simplement au rôle qui est le sien, puisqu'il est capable de vivre avec toute forme d'identification de l'intérêt général. Il n'a pas lui-même d'autre légitimité démocratique que celle qu'il tire des normes qu'il applique. Donc il faut assurément que ces normes-là reçoivent cette onction et cette assise-là, mais lui sera capable d'y faire face à tout moment. Donc je close ce propos à la fois très modeste et très ambitieux en disant que, donc, le juge administratif ne refondera pas entièrement l'État, il ne refondera pas le contrat social, mais dans ces brumes d'éparpillement au milieu desquels il se meut, je pense qu'il conserve quand même quelques repères assez clairs auquel il doit se tenir et qu'il doit énoncer avec une certaine fermeté, c'est-à-dire qu'il a un rôle, un unique rôle, qui est celui de veiller à ce que l'action administrative se déroule dans le respect de l'intérêt général. Et il le fait avec tous les outils démultipliés qui sont les siens, mais il ne peut pas tout.
Merci infiniment. Je me disais en vous écoutant, et pas seulement parce que nous sommes au Conseil d'État, que quand c'est de l'aptitude du juge administratif à dire, mettez ce que vous voulez sous le mot dire, l'intérêt général, tout va bien, parce que le juge administratif est un juge, c'est-à-dire un tiers désintéressé et impartial, au sens que Kojève donnait à cette définition de la justice. Et ça fait... en réalité, non pas un lien, mais une disjonction assez profonde entre la prétention d'un juge investi et la prétention de la société civile. Parce que la société civile, et je repense par exemple aux associations dont je ne méconnais pas le mérite, elle a pour elle de voir midi à sa porte. L'intérêt général qu'elle défend n'est pas un intérêt général, c'est un intérêt éminemment catégoriel et surtout éminemment émotionnel. La prétention de Greta Thunberg à dire l'intérêt général est une folie parce que Greta Thunberg a une vision du monde qui est aneconomique par construction. Ce qu'elle va dire est de l'ordre de la confiscation de l'intérêt général d'un seul côté, alors que le travail d'impartialisation du monde auquel le juge doit se livrer passe par le compromis nécessaire de l'ensemble des intérêts, des valeurs, des normes constitutionnelles qui fait la possibilité même d'une société économique, politique, sociale, etc. Vous savez, Legendre, qui n'est pas, Pierre Legendre, qui n'est pas mon idole par ailleurs, disait quelque chose de très intéressant sur l'opposition du droit public et du droit privé. Il disait que le droit privé, c'était le monde des choses sales, le sexe et l'argent, alors que le droit public, qui est du côté de l'intérêt général, était le monde des choses propres, la transcendance de l'intérêt public. À dire vrai, c'est assez intelligent, cette affaire-là, parce que vous enlevez le sexe et vous mettez la passion à la place, et vous avez quelque chose qui rend bien raison du fait que la société civile ne peut pas être un très bon vecteur de l'intérêt général, précisément parce qu'elle est dans le service de son intérêt propre, qui est celui de la satisfaction idéologique de son projet, et pas la satisfaction, dans l'ordre du compromis, d'un intérêt général, véritablement général, et qui, par sa généralité, s'élèverait à la transcendance souhaitée pour le droit public. Je n'aime pas les associations, et je suis content de passer la parole, avant de m'énerver trop, aux questions de la salle qui ne manqueront pas, j'imagine. Enfin, j'aime pas les associations, il faut voir. Je n'aime pas l'empire des associations. Y a-t-il des questions ?
Oui, Benoît Guével, je suis président du tribunal administratif d'Orléans. J'ai une question pour Madame Roger. Je voudrais savoir dans quelle mesure, selon elle, l'institutionnalisation du lobbying dans les institutions européennes contribue à forger ou à contrarier la naissance de l'intérêt général européen. Merci.
Merci beaucoup. C'est une, je pense, ce qui s'est produit au cours des années récentes, c'est le constat de l'existence de sociétés qui sont là pour promouvoir leur intérêt, donc un intérêt catégoriel, et que, reconnaissant l'existence de ces multiples intervenants autour de la fonction législative et même de la fonction de proposition de la Commission européenne, le législateur européen, le système européen, a cherché à avoir davantage de transparence. Donc, on est allé vers la transparence, on est allé vers une meilleure connaissance de cet écosystème qui s'est développé autour des institutions européennes. Est-ce que c'est une cause de distorsion de la manière dont l'intérêt général se forme ? Honnêtement, je ne pense pas complètement. Il y a une distorsion, mais s'il y en a une, c'est elle est un petit peu impulsée par le traité lui-même, qui est un traité de grande libéralisation. Ce sont les quatre libertés. C'est un traité qui ouvre, c'est un traité qui favorise les échanges et dont l'objectif est de favoriser les échanges. Et c'est un traité qui donc a mis beaucoup de poids dans la manière dont les décisions sont prises sur le marché intérieur. Donc tout ce qui est marché intérieur se fait à la majorité qualifiée. En revanche, des politiques sociales, de certains aspects du droit, la fiscalité, on est souvent resté à l'unanimité, ce qui veut dire que le traité lui-même est un traité où il y a une forme de déséquilibre, si l'on pense qu'il devrait y avoir un équilibre entre ces différentes manières de voir le bon fonctionnement d'une société. Du coup, du fait de ce déséquilibre, on a aussi des interlocuteurs qui sont plus forts à l'égard de la Commission européenne en particulier, mais aussi des parlementaires européens qui sont souvent les grandes entreprises parce que c'est leur écosystème à elles. Et donc, est-ce qu'il y a un biais de ce côté-là ? Oui, peut-être. Mais j'ai tendance à penser que la diversité des intérêts fait que tout ceci se moyenne assez bien. Et mon expérience personnelle de directrice de cabinet d'un commissaire européen est que j'étais souvent assez contente de recevoir les représentants d'intérêts particuliers, d'intérêts privés, parce que ça me permettait de comprendre quels étaient leurs objectifs. Et normalement, on est capable de savoir qui parle et pourquoi la personne parle, et donc de prendre une certaine distance à l'égard de ce qui nous est dit. Donc c'est parfois intéressant pour éclairer la décision. Je pense que la grande majorité des décideurs européens, que ce soit au moment de la conception ou au moment de la législation, est capable de faire cet équilibre et de la pluralité des intérêts en présence. La transparence que l'on a introduite fait que je ne conclurai pas dans le sens de votre question.
Y a-t-il d'autres questions ? Mon Dieu, ça existe. Conseil d'État est entré dans la postmodernité la plus radicale.
J'espère que ça ne nous surprend pas.
Et c'est pas t'es sûr que c'est pas ChatGPT qui pose la question.
Alors, nous avons une question qui est pour l'ensemble des participants de la table ronde. Mais pensez-vous que la question environnementale pourrait redessiner la notion d'intérêt général telle que nous la connaissons aujourd'hui, au sens où ces enjeux pourraient nécessiter de prioriser les intérêts environnementaux sur les autres intérêts?
Est-ce qu'un des participants veut répondre avant que je le fasse?
Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour préparer mon intervention, au-delà de la pratique et la mienne devant le Conseil d'État, principalement devant la 6e Chambre, j'ai pu constater, j'ai parcouru la doctrine, vous l'avez vu, j'ai cité différents auteurs, et j'ai bien eu conscience, au-delà du travail qu'avait fait le Conseil d'État dans ses considérations générales du rapport public 1999, que manifestement, avec cette notion de sauvegarde du patrimoine commun de la nation, on avait ce glissement, effectivement. Et donc, notre acception de l'intérêt général hexagonal pouvait être, je ne dirais pas remise en cause, mais peut-être complétée par une acception anglo-saxonne, utilitariste du bien commun. C'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être d'autres ont une acception, mais c'est ce qui transparaissait, notamment dans ces travaux que j'ai mentionnés. Émile Gaillard, dans sa thèse sur le droit des générations futures et droit privé en 2011, et Agathe Van Lang dans Les mélanges truchés, où elle parle d'un intérêt général environnemental, précisément, sauf erreur de ma part, Les mélanges truchés datent de 2016 ou 2022, j'avoue que je ne sais plus. Mais voilà, en tous les cas, une réflexion doctrinale qui montre bien ce glissement. Alors, c'est vrai que par rapport à l'opposition que nous exposait le professeur Delvolvé ce matin, ou encore l'exposé du vice-président Tabuteau, je suis un petit peu en décalage, mais je vous propose cette ouverture, cette réflexion éventuellement, au regard du droit de l'environnement, et bien évidemment, ce n'est pas que moi, mais d'autres auteurs avant moi. Voilà.
Vous vouliez ajouter un mot, mais j'en dirai un après, si...
Oui, sur un thème connexe, en fait, c'est la question de savoir si à un moment, compte tenu de l'évolution des sociétés et des différentes formes de menaces qui pèsent sur ces sociétés, certains intérêts qui auraient pu apparaître sectoriels deviennent plus importants. Et donc, dans la balance que, Madame la Présidente, vous évoquiez, ils ont une forme de priorité plus grande que par le passé. Et dans les domaines que je suis, nous sommes confrontés à un conflit permanent entre la problématique de la liberté d'expression et des droits fondamentaux et les enjeux de sécurité. C'est quelque chose que le juge européen, en 2014, a défini en expliquant qu'on ne pouvait pas conserver les données, les opérateurs ne pouvaient pas conserver les données de télécommunications de manière générale pour des fins de sécurité publique. Pour pouvoir les consulter ex post. Et donc, il a expliqué qu'on pouvait le faire, mais à condition, par exemple, qu'une suspicion forte pèse sur telle ou telle personne. Donc, ce qui veut dire qu'en pratique, les opérateurs de télécommunications conservent ces données parce qu'ils en ont besoin pour leur modèle économique, mais les autorités qui assurent la sécurité des citoyens ne peuvent pas y avoir accès de manière générale. Et donc, il faut savoir qu'une personne pose une difficulté pour pouvoir avoir accès à ces données, et évidemment, par définition, avant que les personnes ne commettent un acte problématique, on n'est pas nécessairement au fait de leurs intentions. Donc on a cette tension qui existe entre les droits fondamentaux de la liberté d'expression et la sécurité. Et le juge européen applique la loi. Et donc, il dit les directives sur les télécommunications nous dit que non, on ne peut pas conserver maintenant. Une problématique qui, pour nous, est assez actuelle, c'est de se demander si les droits que nous protégeons au niveau européen sont des droits autres qu'individuels. Nous avons une charte des droits fondamentaux, ce sont des droits individuels. Est-ce que la notion de droit de la société, droit des sociétés, est quelque chose qui émergerait de l'évolution même des technologies, par exemple ? On voit quand même que les technologies, leur développement, les réseaux sociaux sont des amplificateurs considérables, d'une puissance considérable. Et en ce qui concerne, par exemple, la pédopornographie en ligne, chaque individu est le possesseur avec son smartphone d'une bombe extrêmement puissante, en fait. Et donc, est-ce que cette notion de danger pour la société est quelque chose qui, dans la pesée des intérêts, pourrait prendre davantage d'importance ? En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons au quotidien et sans toujours arriver à répondre, mais c'est un sujet actuel. Donc, ça rejoint la question sur l'environnement. Est-ce que le péril réel climatique, est-ce que l'affaiblissement de la fabrique, comment dire en anglais, des sociétés, du tissu même des sociétés, sont des enjeux d'une importance telle dans le contexte actuel qu'on devrait peut-être les surpondérer lorsqu'on définit l'intérêt général. Et puis après, je vous laisse dire du mal des associations.
Je vais, avant de vous dire mon sentiment qui m'importe, le professeur Delvolvé voulait ajouter un mot.
Merci, monsieur le président. Une hypothèse d'école dont j'espère qu'elle ne deviendra jamais une réalité. Mais le jour où il y aura la guerre,
bien sûr,
l'intérêt de la défense nationale l'emportera complètement sur le reste et sur l'intérêt environnemental. On l'a vu d'ailleurs déjà à Verdun, etc. On le voit en Ukraine. D'environnement, on ne parlera plus si ce n'est comme élément de défense.
Alors, je me fais beaucoup reproche de vous avoir donné la parole parce que vous avez dit ce que je voulais dire. Alors je vais quand même ajouter quelque chose. L'histoire constitutionnelle française nous donne une vraie réponse à cette question. Alors, deux choses. La théorie du service public, vous vous souvenez, les lois de Roland, la troisième loi de Roland, c'est l'adaptabilité. Et qui est donc une pondération variable dans le temps de la balance des intérêts, c'est la logique même du système, il faut que ce soit comme ça. Qu'il y ait des urgences, qu'il y ait des choses auxquelles mieux répondre à certains moments, ça fait partie des exigences du service public et donc de l'intérêt général. Ça, c'est l'enseignement du droit administratif. L'enseignement du droit constitutionnel, il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1958 et il a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1982 sur les nationalisations. C'est qu'à chaque fois que le constituant a pris la parole en France, en 1789, en 1946, mais aussi en 2004 au moment de la Charte de l'environnement, il a toujours entendu dire qu'il s'appropriait l'ensemble des normes constitutionnelles préexistantes, qu'on ne saccageait rien, qu'on gardait tout et qu'on ajoutait un nouveau pilier à l'édifice. C'est ce qu'on a fait en 1946 pour ajouter des droits sociaux aux droits individuels qui étaient ceux de la déclaration de 1989. C'est ce qu'on a fait en 2004 en ajoutant des droits environnementaux aux droits sociaux et aux droits individuels et politiques qui étaient ceux des générations précédentes. On a additionné des piliers, ce qui crée une injonction absolue d'avoir à les concilier tous. Rien ni personne n'a plus de valeur objective absolue en soi. Il y a une conciliation de plus en plus difficile, sans doute temporelle, sans doute conjoncturelle, mais c'est ça qui nous garantit contre la barbarie la plus absolue. La primauté absolue de l'intérêt collectif environnemental sur le droit de propriété, c'est la fin de l'économie. La primauté absolue du droit de propriété sur n'importe quoi d'autre, c'est la fin de l'exigence environnementale. Donc rien ne peut être absolu. Rien ne vaut intrinsèquement plus cher qu'un autre droit constitutionnel consacré. Nous avons voulu que tout cela tienne ensemble, parce qu'une constitution, c'est une maison commune qui est là pour régir des intérêts antagonistes, irréductiblement antagonistes. Les gens ont des intérêts antagonistes, nécessairement. Et il faut bien qu'on vive avec ça. Mais l'idée qu'un monde... Alors, ça avait été défendu dans le monde il y a quelques années par une cinquantaine d'intellectuels, dont certains pas totalement négligeables, l'idée qu'il faudrait assujettir la liberté d'entreprendre, le droit de propriété à l'utilité commune et dire une bonne fois pour toutes, l'environnement prévaut. Mais c'est une monstruosité, ce que vient de dire Pierre Delvolvé, est d'une évidence totale. Nous découvrons, nous décidons en ce moment sur le fait que nous avons totalement désarmé ce pays et que globalement, si on veut se remettre à niveau, il faut mettre 100 milliards d'euros par an sur 10 ans pour retrouver une puissance de feu qui nous rende habiles à un conflit de haute intensité sur le territoire national. On peut faire ça en disant que le droit de l'environnement, c'est beaucoup plus important que de mettre du kérosène dans les avions de chasse. Ça n'a pas de sens. La seule exigence constitutionnelle ultime de la civilisation, c'est le compromis pondéré en un instant donné des intérêts et des normes constitutionnelles en conflit. C'est comme ça que marche une société. Donc non seulement je ne pense pas qu'il y ait une prévalence possible du droit de l'environnement, mais je pense que la monstruosité caractériserait cet état de droit-là. Ah ben, je suis content d'être venu. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette séance. Merci à tous de votre aimable attention.